attention, avec la grève des journalistes, là, sur France Inter, une partie des techniciens, etc., il n'y a pas parafarin, il va faire pompon le cul, puis il risque même de vous privatiser. C'est ça le pire. Alors, faites gaffe, les mecs. Allez, salut, puis bon courage, bonne journée, puis bonne grève. Hein. Allez, salut.
Ah, c'est marrant, les journalistes font grève et on n'entend toujours pas parler de grogne, ni de d'usagers pris en otage, et on va pas interviewer les auditeurs au saut du lit pour savoir ce qu'ils pensent du fait de se taper de la musette au réveil. Non, et bien même incroyable, on en viendra presque à nous expliquer les raisons pour lesquelles les journalistes font grève. Eh ben dis donc, ben, ça change, hein, et quand il y a des grèves de fonctionnaires, que ces mêmes journalistes nous parlent de corporatisme. Oh, on se marre, tiens. Bon, mais allez, c'était Johan de Saint-Étienne.
Oui, bonjour Stéphane de Nice. Hier matin, réveil difficile, un peu dans le pâté, j'allume la radio, pas de journaliste, merde, pas d'informations sur France Inter. Bon, tant pis, musique, très bien. Et puis, à 7h25, apparaît une lumière matinale. C'est Jean-Marc Sylvestre. Jean-Marc Sylvestre qui nous annonce gentiment mais fermement que, certes, en Chine, c'est vrai, les droits de l'homme ne sont pas respectés et c'est très laid. C'est vrai, le président n'est pas tout à fait élu par le peuple. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est triste. Mais nous ne pouvons rien faire aussi. Aussi, il vaut mieux s'occuper de l'économie, car de toute façon, même si on le boycottait, ce sale pays tout pourri, bah, ça ne changerait rien. Alors finalement, autant faire des affaires. Après tout, mieux vaut être riche quand les gens souffrent que pauvre si les gens souffrent de toute façon. Merci Jean-Marc Sylvestre, merci pour cette leçon d'humanisme, de tolérance, et véritablement, je continuerai à vous écouter, continuez longtemps Jean-Marc, je vous aime Jean-Marc, je vous aime.
Ben voilà, c'est gay, c'est amoureux, et la grève des journalistes de la rédaction continue, mais là-bas, si j'y suis aussi aujourd'hui, bon, on va parler pour changer un petit peu de chômage, figurez-vous, mais on en a beaucoup parlé toutes ces années dernières, depuis des années, 10 ans, 12 ans, on parle du chômage, mais là, on va parler plutôt de la précarité de certaines catégories de population et de Français. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, j'y suis, 01 56 40 37 37.
Bonjour, Daniel Mermet. Donc, en réponse à un auditeur d'hier qui avait peur que les services militaires, on leur demande de la rentabilité, que je le rassure, puisque les services, article 1er, petit D de la GCS, hein, les services comprennent tous les services de tous les secteurs, à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. Un service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. Donc pour l'armée, pas de problème. Par contre, pour l'éducation, la culture, la santé, la recherche, tout ça, oui, là, il y a des soucis à se faire. Hein, voilà. Donc aussi, un petit message à tout le monde, c'est bientôt les élections régionales. Ben, il faut aller voir ses élus, hein, et puis leur parler de la GCS et demander que les élus, ben, se positionnent sur le moratoire de ces négociations. Vous savez, ça les embête, hein, quand de simples citoyens viennent leur parler de ça. Je l'ai fait, et ça porte ses fruits. Allez, ben, bonne continuation à tous, hein. Au revoir.
Salut, l'émission Daniel Mermet. À propos du trou de la Sécu qui se monte à 10 milliards d'euros, les exonérations patronales, elles se montent à 20 milliards d'euros. Et les actionnaires prélèvent chaque année sur les 300 milliards de profits, elles en prélèvent 160. Alors ça fait beaucoup de trous qu'on pourrait boucher. 160 milliards de vols. J'appelle ça le vol des actionnaires au-dessus d'un nid de cocu. À bientôt.
là, je vous téléphone au sujet de la précarité. Bien, je suis conseiller municipal, c'est mon deuxième mandat dans mon village. On fait partie d'une équipe plurielle, c'est-à-dire vert, socialiste et communiste. Et même dans nos rangs, on entend encore des gens maintenant qui se sont laissés embarquer dans le. On est les hommes politiques, c'est tous les mêmes, ils sont tous pareils. Les socialistes, les communistes, ainsi de suite, c'est tous la même soupe. Alors je voulais rectifier quand même un peu le tir, je l'ai rectifié hier soir, mais je voudrais rectifier auprès des gens qui écoutent ton émission, que depuis que Raffarin est arrivé au pouvoir avec Chirac, qui est quand même pas quelqu'un de gentil et tendre, comme on nous le fait voir au Guignol, on fait passer les socialistes pour des neuneux, mais Raffarin et Chirac pour des braves types, Sarkozy pour un zébulon, mais un brave type quand même. Mais bon, bah voilà. Il se passe quand même qu'il y a la suppression des emplois jeunes, mise en cause des 35 heures, précarisation des salariés, tout ce que les socialistes avaient mis, hein, hausse du chômage, mais alors massive, social et santé, bon bah réduction des crédits pour l'insertion, le CMU c'est fini, il faut gagner 2000 francs par mois maintenant pour le toucher, des remboursements de médicaments, ça c'est, mais alors en très très grande voie, réduction des aides aux chômeurs, et même plus que réduction, parce qu'on a mis quand même 180 000 personnes pendant le mois de décembre à la porte. Les services publics sacrifient des budgets, l'éducation et de la recherche, augmentation des tarifs publics, démantèlement des services publics complètement démantelés d'ailleurs, ça commence par l'hôpital, services santé, et ça finira par EDF, la Poste, qui est déjà partiellement privatisée, et j'en passe et des meilleurs.
Monsieur le baron Ernest Antoine Sellière de Laborde est choqué quand on lui dit qu'un autre monde est possible. Et si on lui dit qu'un autre monde est nécessaire, qu'est-ce que ça lui fait à notre baron ?
Jacques Chirac, enchanté, Ernest Antoine Sellière sont nos amis qui guident nos pas. PMU, UMP, la Bernadette guerrière a sonné l'heure des combats. Vous tremblez maintenant de la France, finis tous vos privilèges. Vous allez en baver un maximum, c'est nous les patrons, nom de nom.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Claire Terre, tombée de haut.
Flight number 2, arriving from
Newport. En avant la réforme, en avant l'entreprise France.
Il est 8h, il faut travailler.
Ouais.
Il est 8h, il faut y aller.
Bon, voilà, on a une famille, 5 personnes, 4, 3 sont au chômage, dont une même pas inscrite, mon fils, mais en recherche d'emploi. La quatrième bosse en intérim, et l'autre est au collège.
Alors, depuis le 1er janvier, près de 200 000 chômeurs n'ont plus les allocations auxquelles ils avaient droit, pour lesquelles ils avaient cotisé au total. Ce sont 856 700 chômeurs qui, d'ici fin 2005, se verront ainsi rackettés par les patrons du MEDEF. Nous ne nous laisserons pas crever. Voilà. Permanence juridique tous les mardis après-midi au siège de la PES, 27 avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine.
Instituteurs, étudiants, enseignants, et proviseurs,
tout va bien.
Enseignants
en colère,
surveillants
en colère,
maîtres auxiliaires
en colère,
infirmières
en colère,
agents de service
en colère,
vacataires
en colère,
psychologues
en colère,
services sociaux
en colère,
contractuels
en colère,
médecins scolaires
en colère,
CPE
en colère,
instituteurs
en colère,
étudiants
en colère,
CIO
en colère,
et les recteurs
en colère.
Merde, putain,
oh, écoutez, le MEDEF, c'est ce que c'est que
les manifestations, puisqu'il y en a pratiquement tous les jours. Écoutez, celle-ci, comme les autres, manifeste de l'idée qu'on se fait qu'on peut, dans la rue, empêcher l'inéluctable, la lucidité, la force des faits, malheureusement, ne peut pas le céder devant la marche dans la rue, nous le savons.
Objet cadeau recherche pour grand magasin Paris et périphérie. Vendeuse. Excellente présentation, expérience CDD, novembre, décembre, fixe plus prime. Pour rendez-vous, téléphonez. Distribution objet cadeau recherche pour grand magasin. Ça m'intéresse pas. Boulangerie, 20e recherche caissière vendeuse, 8 ans, après-midi repos, dimanche et lundi. Boutique de luxe, table maison cadeau. Boutique recherche vendeuse, stock 80.
Allez, la France est 4 fois plus riche qu'il y a 50 ans. Notre PIB est au 5e rang mondial. Nous vivons dans un pays confortable, abondant, généreux, dans lequel vivent aussi 5 millions de pauvres et d'exclus, dont 1 million d'enfants, dont 3,7 millions d'hommes et de femmes qui vivent avec moins de 600 euros par mois. Ainsi commence par ces lignes un livre en hommage à l'abbé Pierre et son fameux appel il y a 50 ans. Ça s'intitule « Manifeste contre la pauvreté ». Et à ce livre, à cette commémoration, eh bien, on va tous vibrer, on nous incite à vibrer. On va s'émouvoir, compassion, culpabilité, responsabilité, indignation, plateau de télé. La lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion, c'est d'abord la lutte contre le chômage. Or, aujourd'hui, on ne lutte pas contre le chômage, mais contre le chômeur. Le chômeur, voilà l'ennemi. La cause du chômage, c'est le chômeur. Être chômeur, c'est un choix. Le chômeur est responsable de son chômage et même coupable. Il faut décomplexer le regard sur la figure anxiogène du chômeur. Le chômage augmente, la durée d'indemnisation diminue. Le 1er janvier 2004, 180 000 allocataires se sont vus privés de leur allocation. En janvier, au total, ce sera 250 000 qui seront privés de cette allocation. D'ici à 2005, c'est 856 000 chômeurs qui n'auront plus d'allocation. Un scandale ? Pas du tout. Alors que les médias unanimes célèbrent l'abbé Pierre, eh bien, ils étaient 100 au total à la manifestation du 1er janvier à Paris pour protester contre les mesures contre les chômeurs qui s'appliquent en 2004. 100, ils étaient à la journée unitaire d'action pour réclamer le retrait de la réforme de l'assurance chômage, les mesures limitant l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité, et le RMA, revenu minimum d'activité, accusé d'être un sous-contrat de travail. On va aujourd'hui évoquer, peut-être pas ceux qu'on présente d'habitude qu'il s'agit de chômage et de précarité, c'est-à-dire bof, la piétaille, l'infanterie, ceux qui sont prévus pour ça. Mais on va les appeler les tombés de haut, c'est-à-dire des gens de la classe moyenne, des cadres ou des gens qui jusque-là ne se souciaient pas trop de solidarité ni des problèmes des autres et qui brusquement se sont trouvés à leur tour touchés par le chômage, la privation d'emploi, l'exclusion. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, tombé de haut.
Voici l'histoire bien ordinaire qui m'est arrivée cet hiver. Cette histoire, c'est un peu la vôtre, car elle n'arrive pas qu'aux autres. Un jour, le grand patron m'a dit: vous passerez me voir à mon bureau. Monsieur Machin, on vous remercie. Et j'ai jamais retrouvé de boulot. Une compression de personnel fut mon dernier cadeau de Noël. Alors tout s'est accéléré, mon existence a basculé. Depuis j'habite rue de nulle part, comme ça, ça m'est tombé dessus. Certains choisissent d'être clochard, moi j'ai pas choisi d'être à la rue. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les règles du grand capital m'ont tout volé, même le vital. Le nécessaire avant l'envie, ma vie est devenue la survie. Ma maison, c'est un carton d'emballage Ikea. C'est là que je bossais comme un con, avant qu'ils aient plus besoin de moi. J'ai faim marqué sur un panneau, je fais le mendiant dans le métro. Ça fait bizarre, je vous assure, plus voir les gens mais leurs chaussures. Et croyez pas que ça m'amuse de devoir faire le petit numéro du messieurs dame, je m'excuse. Une pièce ou un ticket resto. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année, et les joies du camping forcé. Je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous, un jour ça tombera peut-être sur vous. Peut-être qu'un jour ce sera votre tour d'aller crever au pied des tours. L'œil ébloui par la lumière des grands fabricants de misère, les belles multinationales qui font des pauvres et des maudits, des millions de gens qui crèvent la dalle pour la cinglerie du profit. Et quand arrivera l'euro, vous n'en verrez pas la couleur, ce seront les mêmes quand on rentre trop. Messieurs, mesdames, à votre bon cœur. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Oui mais je sais qu'un jour viendra, un jour le vase débordera, les pauvres on se réunira. Voilà ce qui arrivera en ayant marre des trucs cocus, nous les exclus de la galette. On viendra prendre notre dû, cette fois c'est vous pour les miettes. Comme il n'y aura pas d'autre solution, on refera la révolution. Des millions de pauvres dans la rue, ça peut vous foutre un beau chahut. Et on ira pique-niquer sur les pelouses de l'Elysée. Et ce jour-là, planter l'artiche, il fera pas bon d'être trop riche. Et ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances en toute l'année, et les joies du camping forcé. Je vous souhaite pas, mais méfiez-vous, un jour ça tombe un tel sur vous.
Je m'appelle Chantal, j'ai 50 ans et demi. Et j'étais cadre, cadre de haut niveau, si on peut appeler ça comme ça. J'étais directrice de collection dans la mode et dans la haute couture. Et il faut savoir que lorsqu'on atteint un certain âge dans ce secteur d'activité, eh bien, on va dire vulgairement qu'on vous dégage. Je gagnais 42 KF mensuel brut. 42 KF, c'est 42 000 francs d'un salaire brut. Et je vais tomber maintenant à 2600 francs mensuel net. Et en 2 ans. C'est-à-dire, on peut passer d'une situation assez confortable à une situation très précaire, puisqu'on peut tomber en allocation spécifique de solidarité, où on touche 2400 francs, je parle en francs, par rapport à des revenus qu'on avait auparavant. Donc, le choc social, le choc financier, le choc est très brutal. Alors, mon cas est particulier, je suis célibataire, je ne suis pas paxée, je ne vis avec personne, je n'ai pas d'autres revenus que ces revenus-là, ce qui veut dire que ça remet en cause toute une organisation de vie qui a été faite jusqu'à 50 ans. Alors qu'on s'attend à 50 ans à avoir une petite stabilité de vie, eh bien, ça remet en cause beaucoup, beaucoup de choses. Très concrètement, au quotidien, c'est envisager de revendre un appartement pour racheter quelque chose de plus petit et pour vivre sur le différentiel, parce qu'il faut savoir qu'avec 2600 francs par mois, on ne vous accorde pas de location. Et sans bulletin de salaire, on ne vous en accorde d'autant moins. Il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de loisirs, il n'y a plus de plaisir. D'abord, on vit malgré tout obsédé par ça, parce que c'est très difficile moralement, mentalement. Moi, en fait, j'ai été une privilégiée pendant longtemps, mais justement, faites attention, vous les privilégiés, parce qu'on tombe très vite de très haut quand vous êtes premier au hit-parade et que vous devenez dernier au box-office en peu de temps, je peux vous dire que votre portable ne sert plus à recevoir, mais il sert exclusivement à appeler. Et que votre ligne, on fait comme dans les films, on décroche pour voir si la ligne est toujours valable, parce qu'on se dit pourquoi les gens n'appellent plus. C'est-à-dire on sort du circuit social, parce que il faut savoir une chose, c'est que le côté professionnel vous apporte le social. N'importe quel salaire que ce soit, lorsque vous êtes dans une société, lorsque vous travaillez, vous avez une vie sociale qui vous amène une vie ensuite personnelle. Et cette vie personnelle déclenche plein de choses, déclenche aussi une vie sentimentale, déclenche une vie d'intérêt, déclenche une vie de hobbies que vous n'avez plus. Vous n'avez plus de vie, en fait. La seule vie que vous avez, bien, c'est simplement celle peut-être de lutter à la limite même contre vous-même, quelquefois. Parce que je peux vous dire que les pensées que vous avez ne sont pas des pensées positives. Je pense que vous vous en doutez. Et moi, je l'avoue, je prends maintenant des antidépresseurs parce que c'est le seul moyen de pouvoir parler de façon normal et si possible pas trop agité, parce que dans ces cas-là la révolte plus là quelquefois même aussi la honte, parce que vous savez, aller s'inscrire pour certains au RMI ou simplement vous dire vous avez l'allocation spécifique de solidarité, vous me direz que c'est de l'orgueil mal placé, mais c'est très difficile et vous en prenez un sacré coup, comme on dit. Donc tout change.
Tout change. Voilà comment parle Chantal. On tombe très vite de très haut, dit-elle. Et quelle conclusion on tire ? Il y a une conclusion qu'on peut tirer de phrases comme ça, c'est « Tenez-vous à carreau ». Et oui, le chômage et la précarité sont des armes très efficaces pour réduire les résistances sociales au projet libéral, à l'application de l'idéologie libérale. On nous a fait croire très longtemps que chômage et précarité étaient des fatalités, les effets d'une crise qui était apparentée à une catastrophe naturelle. Et lorsqu'on entend quelqu'un comme Chantal, la plupart d'entre nous, d'entre vous, se disent il faut se tenir à carreau. Mais quand on est à l'intérieur de cette situation, on peut se dire deux choses. Ou bien je lutte contre moi-même, c'est ce que vient de dire Chantal, antidépresseur, autodestruction, la honte qu'on garde pour soi, ou bien, et c'est pas facile du tout, la révolte. C'est pas facile du tout, et c'est là-dessus que comptent les dominants, qui utilisent évidemment, c'est de plus en plus clair, le chômage comme un moyen de contrôle social, comme un moyen d'affaiblir toute contestation, comme un moyen pour disposer d'une main d'œuvre, d'un salariat docile, qui est la tête dans les épaules et qui ne dit rien. C'est dire le travail lent qu'il faut pour aller jusqu'à un début de révolte, pour oser parler tout simplement comme Chantal le fait, elle dont la vie un beau jour, ou en tous les cas brusquement, a changé.
La vie change totalement, vos relations changent totalement, vous devenez à la fois renfermé et agressif, vous essayez de vous ouvrir sur les autres, mais les autres se ferment parce que les autres qui travaillent, vos anciens collaborateurs, vos anciens collègues, tant mieux pour eux, travaillent. Donc vous, vous êtes exclu de tout cela. C'est ça l'exclusion. Mes hobbies, c'était déjà de voyager. Donc ça c'est exclu, c'était même tout simplement sortir avec des amis, recevoir chez moi, et ça c'est exclu aussi. Parce que bon, on peut recevoir autour d'un plat de pâtes, mais enfin faut quand même qu'il y ait un petit accompagnement. L'amitié reste pour certaines personnes, ça c'est évident, mais elle part pour beaucoup d'autres. Alors vous me direz que c'était peut-être des fausses amitiés, mais bon voilà, c'est tout, c'est un constat. C'est un constat d'échec. Quand on arrive à 50 ans, c'est un gros constat d'échec. Je pense que ça me serait arrivé à 35, 40 ans, c'était différent. À 50 ans, il y a un constat d'échec. On se dit que finalement, on a mené toute une vie, et dans mon cas, pour le travail, puisque je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu d'enfant. J'ai consacré toute ma vie à mon travail qui était très prenant, qui était un travail qui me passionnait. Il faut bien reprendre le terme de passion dans un travail. Je ne faisais pas ça simplement pour gagner ma vie, tant mieux si en relation avec cette passion je gagnais très bien ma vie. Mais il faut savoir que généralement les employeurs ne vous payent pas pour ne rien faire, surtout maintenant. Mais on perd cette passion, et moi le problème c'est que cette passion représentait 80% de ma vie. Donc on va dire que les 20% sont très très réduits maintenant. Et je passe donc maintenant à l'allocation spécifique de solidarité. Ça doit être de l'ordre de 2400 francs net. Bon, je vais essayer de faire de l'intérim, mais le problème aussi, c'est que dans l'intérim, si je veux faire même du secrétariat, je suis capable d'en faire. Seulement, lorsqu'on cherche une secrétaire, on va faire appel à une secrétaire. On ne peut pas d'un seul coup passer même d'un poste de cadre de haut niveau à un poste d'employé de bureau. On vous veut pas. On vous dit que vous êtes positionné trop haut et que vous n'êtes pas capable de descendre vers le bas, même si l'État vous fait descendre vers le bas.
Donc vos qualifications deviennent un handicap ?
Oui, tout à fait. Je peux, entre guillemets, dissimuler mon âge, mais il est très très difficile d'occulter une expérience globale. Ça, c'est difficile de mentir là-dessus. On peut mentir en se faisant passer plus, mais c'est difficile de mentir en se faisant passer pour moins. Ça doit être humain.
Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement, j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. Le peinard, vous voyez, pour choisir, on a. Ah oui, il y a du choix, hein, c'est bien. Ah ouais, enfoiré. Ouais. Moi, j'étais remplacé par une machine, avec toute l'équipe de mecs qu'on était. Ah, une machine super, hein. Elle fait tout le travail à notre place, aussi bien ou moins aussi bien que nous, hein. Sinon mieux. Et puis alors, la machine, ça n'a pas besoin de salaire, ça n'a pas besoin de repos, ça n'a pas besoin de vacances, c'est jamais malade. Et pire, ça n'a même pas besoin de travail. Parce que tout le monde gueule, on dit, ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait.
Coluche, Coluche, c'était le début de cette soi-disant crise, même si c'est une vieille histoire, c'est une vieille histoire. J'ai un texte qui date de 1897. Je ne sais pas très bien à qui il a été attribué. C'était cité dans l'Histoire générale du socialisme par Jacques Droz, par un libéral de la fin du siècle dernier, qui disait ceci: cette misère offre un salutaire spectacle à toute une partie demeurée saine des classes les moins heureuses. Elle est faite pour les remplir d'effroi, les exhorte aux vertus difficiles dont elles ont besoin pour arriver à une condition meilleure. Le chômeur, le chômage, comme un Frankenstein social, comme un épouvantail, comme quelque chose qui doit nous faire tous marcher au pas. Mais on pensait que c'était ce que Coluche fait rigoler, c'est-à-dire les prolos, c'est-à-dire le petit peuple, le bas peuple, comme on dit. Et voilà que cette inquiétude, cette angoisse a gagné toute une société, qu'elle le dise ou non, qu'on le dise ou non. Et Chantal, eh bien, qui avait une situation brillante, enviable, qui était l'executive woman, est tombée de haut et elle le dit.
Il faut quand même maintenant arrêter de dire que le chômage est la priorité du gouvernement, parce que si réduire le nombre de chômeurs, c'est couper la tête des chômeurs et faire en sorte qu'il n'y ait plus personne inscrit, enfin je schématise, au niveau des ACDIC, on va créer une autre catégorie sociale très précaire. Aujourd'hui, je fais partie des recalculés des radiés. Mes droits allaient jusqu'à fin avril 2004. On les a amputés de 4 mois, ils sont ensuite réduits à fin décembre. Alors, où sont partis mes droits ? Alors, excusez-moi, mais l'UNEDIC devrait être, entre guillemets, responsable et devrait se licencier elle-même. Demain, je m'associe aux plaintes parce que je veux que ceci ne se reproduise plus dans l'avenir, parce qu'une fois que le décret de loi est passé, je crois malheureusement qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que jusque-là, j'étais très légaliste. Je suivais totalement les indications. Le PAR, on m'a demandé de le signer. J'ai signé le PAR. J'ai respecté le PAR. Et je m'aperçois maintenant que l'État ne respecte absolument pas, finalement, ses engagements. Alors, excusez-moi, mais l'État aura peut-être affaire à la justice. Et je trouve ça simplement un retour, et un juste retour de circonstances.
Et Chantal, demain, vous descendrez dans la rue ?
Alors oui, je descendrai dans la rue et je le répète encore, il y a des gens avant nous qui se sont battus et on a profité quand même de ces acquis sociaux. Alors je ne me prends pas pour une militante, hein, parce que j'avoue que j'ai travaillé dans un secteur d'activité où le militantisme n'était pas de bonne aloi. Et bon, c'était, je ne me serais pas vue descendre dans la rue. Mais on vient à tout par révolte, on vient à tout aussi par simplement le fait qu'il faut que ce soit juste. Un peu juste. Je descendrai dans la rue et je vais inciter même des gens qui ne sont pas concernés encore à le faire autour de moi, si je peux le faire. Mais c'est difficile de faire comprendre à des gens qui ont un emploi à l'heure actuelle que tout cela peut leur arriver demain. Le chômage concerne malheureusement tous les salariés. Les cadres de haut niveau, ça concerne les employés, ça concerne les ouvriers, ça concerne tout le monde. Et je crois que actuellement, il faut être très, très vigilant sur ces modalités de loi, sur le chômage, parce que tout ce que l'on avait construit auparavant est en train d'être démoli. Et on est en train de créer, c'est ça qui m'inquiète beaucoup, une précarité nouvelle. Moi, ma nourriture, j'ai l'habitude d'aller l'acheter au supermarché. Moi, je ne sais pas cultiver mon jardin. Je ne sais rien faire d'autre.
Chantal, est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui, ça va modifier la teneur du bulletin de vote que vous mettrez dans les urnes demain ?
Alors, je l'affirme, oui. Moi, je dois dire que j'ai voté pour ce parti actuel, autour de moi aussi. Ça, c'est certain. Je ne voterai, et je le dis aujourd'hui, plus jamais droite. Voilà. Je ne voterai plus jamais droite.
Je ne me ferai pas l'avocat des apologistes du déclin. Je suis lucide sur la société française. Mais je vois trop de grands intellectuels aujourd'hui nous servir à froid une pensée congelée des conservateurs qui voudraient parler de progrès. Je suis attaché à la lucidité, mais je refuse le conformisme du « tout va mal ». Regardons les choses dans la réalité. J'ai participé récemment à une émission de télévision fort respectable, mais c'était quelques visages de la France. Ce n'était pas tous les visages de la France. Évitons cette spirale de la sinistrose et retrouvons le goût de l'avenir. Évitons dans cette logique de tous ceux qui sont les apôtres du déclin.
Je m'appelle Pascal, j'ai 43 ans. J'étais directeur commercial pendant 3 ans et voilà, je me retrouve au chômage depuis un an. C'était le 1er octobre donc 2002. J'étais directeur commercial dans la communication, dans l'imprimerie. Je gagnais très bien ma vie, 40 000 francs, un petit peu plus de 40 000 francs même par mois. C'était du brut, mais plus les avantages, plus ça, donc c'était du net grosso modo.
Je peux garder votre CV et le remettre, oui. Mais oui.
Bonjour, j'ai un CAP d'esthétique, mais vente aussi cosmétique. Je vends
oui, les produits cosmétiques.
Vous vendez, mais vous avez une expérience de vente.
De vente, oui.
Essayez. Rentrez.
Je suis sûre que je ne comprends pas trop, mais je travaille dans l'hôtellerie, mais j'ai tenu la caisse.
Il faut avoir une expérience dans la vente. Si vous n'avez pas les diplômes.
Chômage, oui, c'est la. C'est la vendeuse, c'est la petite caissière, c'est cette petite... C'est la France d'en bas, voilà. Le chômage, c'est la France d'en bas. Et puis, qui est sinistre, qui fait la tête. Bon, faut pas être sinistre comme ça, il y a des choses qui vont très bien, etc. Sauf que, non, ça ne touche pas seulement que ceux, bon, que ça a toujours touché, qui sont, de toute façon, qui sont faits pour ça. Hein. Non, ça touche toute une frange de plus en plus importante et qui n'est plus une frange de France. C'est toute une société, pas seulement d'ailleurs, la France, mais des pays comparables, européens notamment, qui sont affectés par cette politique de l'inquiétude, par cette politique de la fragilité. Le chômage augmente, les allocations diminuent et l'opinion apparemment jusque-là a l'air d'accepter. Combien de temps encore? Voilà le cas de Pascal, 43 ans, lui aussi un tombé de haut.
Et votre femme aussi gagnait sa vie?
Elle gagnait environ 10 000 francs par mois également, donc on avait de bons revenus l'un et l'autre.
Ça veut dire une maison, ça veut dire...
Ça veut dire une maison, ça veut dire des impôts l'année précédente, que l'on continue à payer ses impôts avec plus de 6 000 francs par mois, Donc là, c'est très très difficile. Pour mettre du fioul dans la chaudière pour se chauffer, on fait attention et on en rentre très peu parce qu'on n'a pas le choix. C'est difficile de joindre les deux bouts. Moi, j'ai jamais été au chômage, je savais pas ce que c'était. Et donc, je suis allé la première fois aux acédiques, je savais même pas ce que c'était que les acédiques, ni rien du tout. Et donc voilà, moi j'ai eu un contrat qui stipulait que j'avais jusqu'à 31 mois ma indemnité journalière. Et voilà, et on se retrouve du jour au lendemain à être complètement sur la paille, parce que moi j'avais rien de côté, c'était des crédits, c'était tout ça. Et donc notre projet pour rebondir, c'était de créer une première entreprise et une seconde, et puis on se retrouve confronté à ces problèmes de réforme, et tous ces projets tombent à l'eau, bien évidemment, et tout est remis en question complètement du jour au lendemain, quoi. Et on nous enlève de l'oxygène, en fin de compte. C'est comme si on partait en plongée, faire une plongée profonde avec une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, comme vous le souhaitez. Je vais vous parler financièrement, parce qu'en fin de compte, c'est ça qui est important, hein. Le nombre de mois, peu importe. Nous, c'est par rapport aux revenus que l'on aura en moins et les chances que l'on aura en moins pour lancer une entreprise, c'est 150 000 francs. Les vacances, on n'en parle même plus, ça n'existe plus. Les vacances, on regarde que la télé, quoi, le soleil à la télé, la neige à la télé, parce que on fait attention à tout, quoi. Quand on est dans la difficulté, parce qu'on est vraiment dans la difficulté, on a des charges très importantes. Dès qu'on ouvre la porte, le premier jour du mois, on a 17 000 francs de charges qui tombent. Donc, s'il n'y a pas les rentrées, vite fait, on verra Lucie arriver, et puis on n'aura plus de maison. Tout le travail que l'on a eu avant, ça peut tomber du jour au lendemain. On n'est plus rien du tout, en fin de compte, après. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une voiture, c'est une voiture qui bat des castagnettes, qui bat de partout, parce que j'ai pas le choix. Alors que je roulais dans des voitures de luxe avant, c'est comme ça.
C'est toute une vie de boulot qui fout le camp ?
Complètement. En très peu de temps, du jour au lendemain, je dirais même. J'ai une fille de 18 ans. Puis pour le week-end, elle va essayer de trouver un petit boulot pour amener un petit peu à la maison, pour nous aider, pour payer un petit peu ses loisirs, quoi, malgré tout.
Comment vous voyez l'avenir, là ?
Nous, ce que l'on veut pas, c'est rester au chômage. La situation, c'est pas de rester au chômage, c'était pas du tout ça. Et voilà, quoi. Je vois qu'on est des marionnettes, qu'on est manipulés, en fin de compte. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont là-haut, ils ont le droit de vie ou de mort sur ceux qui sont en bas, après, c'est tout, quoi. Voilà ce que je pense des gens qui sont en haut, hein. Eux, ils ont un centre de profit, et puis voilà. Et puis, au nom de ça, on abat ceux qui sont en bas, parce que ça coûte trop cher. Et s'ils tenaient une entreprise comme ils tiennent le fait de gouverner, il y aurait, à mon avis, beaucoup plus de dépôts de bilan qu'il y en a encore là, hein. Parce que c'est facile de jouer avec l'argent des autres, mais quand c'est sa propre entreprise, c'est différent. Je pense que c'est différent. Pourtant, je suis pas du tout syndicaliste, hein. Moi, je suis pas de parti de droite, de gauche. Mais de manifester avec les gens d'ici, vraiment, il est sûr que je vais bouger la prochaine fois pour les manifester avec eux. Tout à fait. Descendre dans la rue, bien sûr. Bien sûr.
Nous sommes vraiment favorables au dialogue social.
Alors, répétons encore ces chiffres. 1er janvier 2004, 180 000 allocations de chômage supprimées. Au total, en janvier, 250 000. Et d'ici à 2005, 850 000 chômeurs qui ne percevront plus d'allocations. Il faut aussi parler de l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité, c'est-à-dire celle qui est versée aux chômeurs arrivés en fin de droit et qui bénéficie, comme on dit, de l'ASS, c'est-à-dire 406 euros chaque mois, soit 2679 francs, eh bien désormais, l'allocation sera limitée à 3 ans pour ceux qui la touchent déjà et à 2 ans pour les nouveaux allocataires. Ainsi, sur les 372 000 allocataires, 130 000 vont être privés de cette allocation cette année. L'économie réalisée sera de 150 millions d'euros pour pour 2004 et 500 millions d'euros en 2005. Alors, bon, on dit ça fait une économie, oui, il faut voir ça d'un peu plus près. Si on compare avec la réduction de l'impôt pour les plus favorisés, eh bien, le coût pour l'État est d'1,6 milliard d'euros. Voilà ce que coûte à l'État cette réduction d'impôts pour ceux qui ont des revenus importants et 150 millions d'euros d'économiser 500 millions pour 2005 pour rendre des gens qui sont déjà dans la difficulté. C'est-à-dire, ça revient à démunir les démunis. Alors que faire contre ça? La question, elle est bel et bien là. Si tout ce qu'on vous raconte là, si ceux qui nous parlent, si tout ça vous fait peur et vous enfonce dans votre angoisse, enfin dans cette hantise collective, eh ben on aura tout loupé, quoi. On aura tout loupé. Évidemment que la question, c'est quel contre-feu, comment réagir, comment lutter. Il faut bien avouer que c'est pas très très simple. Alors, je rappelle, 1er janvier, la manif, il y avait 100 personnes quand même. C'est effectivement assez décourageant. Bon, mais on n'a pas le choix. Comme disait notre sociologue d'Ahmedabad hein, dans la série sur l'un. De toute façon, the fight must go on. On n'a pas le choix. Alors, bon, autour d'un certain nombre, la lutte, enfin une forme de lutte, se déplace sur le plan juridique. Un certain nombre de chômeurs qui se trouvent dépossédés donc de leurs allocations actuellement et dans les mois qui viennent vont tenter une démarche juridique contre l'État car ils avaient des parts, c'est-à-dire des programmes d'aide au retour à l'emploi. Or, ces nouvelles dispositions sont contraires à ces contrats qui avaient été signés. Explication éclairée par un des avocats qui se bat sur ces dossiers, Maître Boulanger à Bordeaux.
Le PAR, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'UNEDIC en 2000. C'était une volonté du MEDEF de contractualiser la relation entre les chômeurs et les assédiques. Le PAR, c'est un contrat, et ce contrat vous garantit votre budget jusqu'à la fin de vos droits. En gros, il s'agissait de dire, on va changer le système d'indemnisation des assédiques pour les chômeurs, on va faire un système où vous serez indemnisé de manière régulière, et pour une durée qui vous sera connu à l'avance et qui vous est garanti. Les assédiques maintenant remettent en cause le montant et la durée des indemnisations, et ça concerne, d'après les estimations des organisations syndicales, 856 000 personnes qui vont être touchées par cette réduction drastique des indemnisations sur toute l'année 2004, 180 000 personnes rien que sur le mois de janvier. Pensez que simplement les gens qui ont pris des engagements en matière de formation financés évidemment par leurs prestations assédiques, sont obligés d'interrompre ces formations brutalement. Pensez à ceux qui sont en train de financer un crédit d'accession à la propriété et qui brutalement se voient du jour au lendemain privés de toute ressource. Il y a des situations humaines tout à fait dramatiques. Alors, qu'est-ce qui motive cette position nouvelle des assédiques? Ils disent, on n'a plus d'argent dans les caisses, ça on le sait bien, mais elles sont vides de manière qui était absolument prévisible. Les chômeurs n'ont pas à assumer ces conséquences. Respectez le contrat. Si vous admettez le chiffre de 856 000 personnes qui sont touchées par ça en 2004, je sais que l'UNEDIC dit qu'il n'y en a que 600 000, il y a une bataille de chiffres là-dessus, mais 600 000 ou 856 000, ça veut dire qu'en fait, avec les familles, ça fait plusieurs millions de personnes qui sont concernées. Rien que par ce problème, nous sommes obligés de mener en tant qu'avocats, et je dirais avocats militants, une forme de bataille judiciaire et d'opinion. Parce que peut-être les forces politiques d'opposition ne jouent pas forcément tout à fait leur rôle de remise en cause d'un certain nombre de choix économiques et qui sont très préjudiciables aux intérêts des gens. Et ce mouvement s'étend, parce qu'il y a un certain nombre de confrères et de consoeurs dans toute la France qui sont en train de faire la même démarche. Peut-être qu'un rappel à la loi, un rappel au droit, n'est pas mauvais dans un pays où actuellement on assiste à une formidable remise en cause de tout ce qui était les règles qui semblaient les plus intangibles, tant en matière de droit du travail, qu'en matière de droit pénal, qu'en matière de droit civil. Et je crois que peut-être que le judiciaire peut jouer là un rôle tout à fait nécessaire, et qui ne s'inscrit pas du tout dans une tendance à l'américaine, il faut éviter les lieux communs là-dessus, de pénalisation des rapports sociaux. C'est pas du tout ça. C'est, si les organismes publics, les institutions sociales ne respectent plus leurs paroles, est-ce qu'on peut continuer à dire qu'il y a une règle sociale qui s'applique ? Peut-être que la justice a quelque chose à dire par rapport à ça.
Tous les jours, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut faire ? Mais bon, on ne peut pas diminuer, on est au taquet là, on est vraiment...
Au minimum.
Oui, on est au minimum. Pour nous, ça a commencé avec la voiture. On a changé de voiture. Donc on est passé d'une essence à une petite diesel. Il faut quand même s'habiller. Hein. Les gamins, ils grandissent. Regardez-moi ça. Hein.
Max, toi, t'as quel âge ?
19 ans.
T'as téléphoné, en fait,
Je les ai appelés à 2h.
Et tu m'as passé les vents hier ?
Bah non, il pleuvait.
Vous recherchez un peu pour toute la famille ?
Bien sûr, j'ai l'œil ouvert pour tout le monde, oui.
J'ai vu un truc ce matin d'ailleurs, ils cherchent des commerciaux, même débutants.
Je sais pas, faut
je
voir.
Je l'ai mis sur à l'écran. Tu regardes sur Word, je l'ai collé dans Word.
Je sais pas, moi je vais aller voir le truc là du café là, voir si j'ai le profil et puis sinon je vais appeler les... L'adresse que tu m'as donnée là pour faire du... Il a cherché un commercial dans un truc de presse, je crois.
T'as quel niveau d'études ?
J'ai même pas de niveau bac, en fait. En fait, j'étais en seconde et j'ai redoublé quatrième, troisième seconde. Donc je me suis dit, à ce rythme-là, je serais en terminale à 23 ans. Et puis je suis parti faire un peu de porte-à-porte. C'est une bonne école pour tout ce qui est commercial, en fait. Je vendais de la prestation de service. Même si j'ai fait 7 mois de porte-à-porte, vu que c'était au black, ça vaut rien, quoi, en fait.
Tu peux pas le mettre sur un CV ?
Je peux pas, en principe, quoi. Faut avoir la motivation pour chercher avant de trouver, hein.
Qu'est-ce qui est passé, là ?
Mon père, avec son Vespa, je vais aller l'ouvrir.
Une petite vinaigrette, hein.
Ça fait penser à la peinture hyper réaliste. Vous vous souvenez de ces peintures qui représentaient exactement les choses photographiées. C'est une photo, ce qu'on entend là. Cette famille, une famille alors moyenne, française, qui est entièrement engluée dans cette hantise d'en avoir ou pas. Doit avoir note, en avoir ou pas du boulot. Et on n'est plus hein, dans le misérable dans son carton qui était un espèce de trouille, mais bon, avec de la compassion, de la charité, on allait y arriver. D'ailleurs, on n'y est pas arrivé. On va entendre l'abbé Pierre faire son même discours que celui qu'il faisait en 54. La grande différence avec 1954, c'est qu'on avait un futur, c'est qu'on avait un avenir, et ça nous aidait à supporter les difficultés du présent. Or, today, no future.
Je m'appelle Philippe, j'ai 45 ans, je viens de la banlieue sud, je suis né dans le 13e, j'ai passé le plus clair de ma vie à Arcueil. On est au chômage aujourd'hui et on essaye de faire avec. J'ai quand même passé le plus clair de mon expérience professionnelle, de ma carrière, à travailler dans le bâtiment. Et j'ai commencé ma petite entreprise artisanale comme ça. Là, ça fait un an, ça fait 18 mois que je suis au chômage, que le PAR était remis en cause. Bon, voilà, on a une famille, 5 personnes, 4, 3 sont au chômage, dont une même pas inscrite, mon fils, mais en recherche d'emploi. La quatrième voit son intérim. Et l'autre est au collège, en 5e. Bon, alors l'image qu'on se projette
les uns aux autres. C'est pas toujours positif, évidemment. Hein, je crois que quand on n'arrive pas à retrouver le boulot, bon, c'est quelque part, on est rejeté. Quand on ne trouve pas, quand on a une réponse négative, et c'est quand même l'immense majorité des réponses qu'on reçoit, évidemment, surtout après 18 mois de chômage, hein, ça veut dire qu'on a eu un certain nombre de réponses négatives, ou qui ne convenaient pas. Donc là, il y a quand même cette espèce de sentiment d'échec, et c'est pas facile de se lever le matin en disant, bon ben voilà, j'ai 45 ans, j'ai 40 ans, 50 ans, plus personne veut de moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre n'importe quel boulot, c'est une question de place dans la société, de rôle, on estime qu'on a fait un bout de chemin, et ce bout de chemin, il valorise une expérience professionnelle, et on aimerait bien pouvoir projeter ça et que les autres la reconnaissent, et quand les autres la reconnaissent pas, dans notre société, et on tend de plus en plus à ça, si on ne travaille pas, on n'est pas grand-chose en fait. Et je fais aujourd'hui, je fais partie des recalculés, et donc mes mois sont comptés, et donc j'ai la guillotine au bout. Hein. C'est-à-dire que une fois que c'est fini, c'est fini. C'est l'allocation solidarité ou n'importe quoi. Alors donc, il faudra trouver quelque chose ou prendre quelque chose, n'importe quel boulot. Je vais certainement m'associer au dépôt de plainte parce que je pense que en rompant ce contrat qu'on nous a fait signer, on nous a fait déplacer, on nous a parlé, on nous a expliqué, avec, je me rappelle très bien de mon entrevue aux ACDIC, avec, alors nous allons vous faire signer un part, on vous explique ce que c'est, voilà, alors monsieur consacre 10, 15 minutes, enfin, j'en veux pas à l'agent de l'ACDIC qui m'a fait signer ce part, mais à l'institution qui m'a fait signer un contrat et qui renie ce contrat 18 mois après me l'avoir fait signer, et en plus en le faisant en douce, en me prévenant au dernier moment. Je trouve ça inadmissible. On découvre que des gens sont dans une misère, mais noire. C'est abominable ce que vivent les gens. C'est ça qu'on découvre, réellement. Et pour ceux qui sont vraiment en bas, au fond du trou, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Il n'y a pas de mots.
Jacques Chirac, enchanté. Ernest, Antoine, Sellière sont nos amis qui guident nos pas. PMU, UMP, la Bernadette guerrière a sonné l'heure des combats. Vous tremblez maintenant de la France, fini tous vos privilèges. Vous allez en baver un maximum. C'est nous les patrons, nom de nom. La canicule travaille pour nous. Le petit chéret mange dans notre main. Le pognon se ramasse à la pelle. Le fric, c'est pour nous, bande de veaux. Les prolos, va les faire triper. C'est nous les patrons, nom de Dieu. Les cocos, c'est fini. La mort est au vin chaud. Le petit Sarko calme le prolo. RMI, RMA, on a ce qu'on voulait. Baisser la peau, baisser la France en bas. À genoux les damnés. Un nouvel esclavage, c'est nous les patrons, nom de nom. La canicule travaille pour nous, le petit chéret mange dans notre main, le pognon se ramasse à la pelle, le fric c'est pour nous, bande de veaux, les prolos.